Comment l'idée d'une telle exposition a germé dans votre tête ?
Alors, ce n'est pas dans ma tête, c'est le directeur des bibliothèques d'Angers, Marc-Édouard Gauthier, qui est venu nous trouver au château en nous demandant si, en nous expliquant qu'il cherchait un lieu pour présenter les acquisitions qui avaient été permises par ce qu'on appelle le Fonds régional d'acquisition des bibliothèques, donc les œuvres, ouvrages qui ont été achetés grâce à ce fonds, qui est constitué de subventions qui viennent de l'État, de la DRAC et de la région, et qui permet donc aux bibliothèques d'acquérir des ouvrages dont ils ont pour lesquels ils ont un intérêt en fonction de l'orientation de leur collection. Ça peut être des livres d'artistes, ça peut être des ouvrages qui viennent compléter un fonds qu'ils ont déjà. Je pense par exemple à Jules Verne à Nantes, au Sable d'Olonne, c'est des ouvrages, des livres d'artistes sur la mer. Donc, vous voyez, c'est grâce à ce fonds que ces bibliothèques peuvent acquérir des ouvrages qui passent en vente, qui sont vendus. Et donc, il nous a proposé d'accueillir au château cette exposition. Du coup, vous imaginez bien d'œuvres très précieuses et très intéressantes.
Les œuvres exposées, du coup, ce sont toutes les œuvres qui ont été acquises ou il s'agit là uniquement de peut-être des plus importantes ?
C'est une sélection. Il n'y a pas la totalité des choses qui ont été acquises en 30 ans. Il y a à peu près 500 œuvres qui ont été achetées pour 15 bibliothèques. Donc, vous voyez qu'on n'a pas la totalité des ouvrages qui ont été achetés. On a essayé de sélectionner des choses en fonction de thématiques. Enfin, ils ont, les conservateurs ont sélectionné des œuvres en fonction de thématiques. On a une première salle qui explique un peu les techniques des livres, qui parle de la reliure, qui parle de l'impression, qui parle du papier, enfin, vous voyez, tous ces sujets. Ensuite, on a une deuxième salle qui est consacrée aux enluminures médiévales et aux livres d'heures du Moyen-Âge. On aborde ensuite les impressions, les premiers livres imprimés et les humanistes. On a une grande partie sur Jules Verne aussi, avec des vues stéréoscopiques, c'est très très intéressant, et des affiches de cinéma, ça va vous rappeler votre jeunesse avec les films 20 milieux sous les mers, Michel Strogoff, des choses que vous avez dû voir ou lire quand vous étiez plus jeune, ou peut-être maintenant d'ailleurs, et une partie sur les surréalistes aussi, et l'école de Rochefort, les avant-gardes littéraires. Et pour terminer, une salle qui est consacrée aux illustrateurs, parmi lesquels Benjamin Rabier ou encore Mercier, qui sont donc des noms très connus en termes d'illustration, et puis aussi des bédéistes, comme par exemple Étienne Davodeau. Et puis beaucoup de livres d'artistes très intéressants avec des formes assez étonnantes. Il y a ce qu'on appelle par exemple un Leporello, qui est un ouvrage en accordéon qui, lorsqu'il est déplié, mesure plus de 2 mètres.
Du coup, il s'agit là plutôt d'une chronologie historique, la manière dont les salles ont été faites.
Oui, disons que les ouvrages sont rassemblés par chronologie, vous avez raison, sauf la première où c'est plutôt transversal puisqu'il s'agit des techniques. Donc là, vous allez trouver des œuvres aussi bien du XXIe siècle que du XVIIe siècle ou du XVIIIe siècle plutôt.
Comment mettons en place ce genre d'exposition ? C'est des objets parfois très fragiles qui sont exposés. Comment on fait ?
Bien sûr. Oui. Alors bien sûr, c'est des objets très fragiles et surtout extrêmement précieux qui sont présentés. Alors comment on fait ? C'est les conservateurs qui parfois les amènent, en tout cas les mettent en vitrine. On les accueille avec la plus grande attention qui soit. On les installe très précieusement. Il y a ce qu'on appelle des socleurs, c'est-à-dire des gens qui sont spécialisés dans les bibliothèques pour créer des petits lutrins, des petits écrins, littéralement, pour les accueillir, notamment dans la salle des manuscrits. Vous verrez, il y a beaucoup de ces soclages, de ces petits lutrins qui sont absolument extraordinaires. On dirait des œuvres d'art à part entière qui sont faits pour que l'ouvrage ait exactement l'inclinaison qu'il faut, l'ouverture qu'il faut, pour ne pas le fatiguer, pour ne pas le contraindre. Donc, vous voyez bien que c'est quand même très, très délicat et heureusement que tous ces professionnels du métier du livre sont là pour accompagner le montage d'une telle exposition.
Dans la salle 6, tu en as parlé tout à l'heure, il y a des œuvres entre guillemets d'aujourd'hui, si je peux dire, telles que des albums jeunesse et des bandes dessinées. Il y a également cette volonté d'être une expérience actuelle.
Ah bien sûr, c'est toujours le cas au château. On essaie toujours de tirer, si on peut dire comme ça, l'exposition même historique vers un sujet très contemporain. Je pense à une autre exposition qu'on avait fait sur les casques, enfin sur la défense au Moyen-Âge, sur l'armée du Moyen-Âge, et on avait également expliqué comment les casques du XXe siècle étaient des réminiscences des casques du Moyen-Âge, ou encore l'expo sur les 5 guerriers, où on avait montré que toutes les figures actuelles de Marvel et encore ou encore de Sensea, etc., étaient des émanations de ces saints guerriers du Moyen-Âge. Donc, c'est un propos très intéressant pour nous d'essayer de montrer aux visiteurs d'aujourd'hui que ce qu'ils connaissent vient en fait de plus loin qu'ils ne le soupçonnent et que bien souvent, dans les ouvrages du passé ou dans la conception du monde au Moyen-Âge, on a des choses qui sont encore présentes. Et oui, il n'y a pas très longtemps, il y a une conservatrice qui me disait on devrait faire visiter l'expo à l'envers aux enfants, c'est-à-dire les faire partir de ce qu'ils connaissent, avec notamment les illustrateurs et les BD, et reculer en quelque sorte jusqu'au manuscrit. Donc votre question, elle est vraiment très pertinente et très intéressante. Effectivement, on a toujours l'envie de montrer aux visiteurs d'aujourd'hui que ce qu'on explique va jusqu'à eux en quelque sorte.
Un bond en avant de 2 semaines qui se transforme en quelques secondes pour vous auditeurs et auditrices. Je suis actuellement au Château d'Angers en plein cœur de l'exposition avec vous, Catherine Leroy, toujours. Pour rappel, vous êtes chef du service culture du Château d'Angers. Avant toute chose, rebonjour Catherine et merci de nous recevoir.
Bonjour Mathéo.
Alors, si je suis ici aujourd'hui, c'est pour approfondir cette petite interview. Le sujet est tellement vaste. 6 salles, 6 thèmes articulés de manière chronologique pour la plupart, sauf la première où nous nous trouvons. La salle des reliures, des techniques, le meilleur moyen de rentrer dans l'exposition, sans doute. C'est ce qui vous a poussé à mettre cette salle en premier dans le sens de la visite ?
Alors, cette salle, elle a été mise en premier par le commissariat scientifique qui a travaillé à l'élaboration de cette exposition. Et effectivement, il leur a semblé important de faire une synthèse en quelque sorte des différents métiers ou des différentes techniques qui aboutissent à la création du livre. On a par exemple l'impression, la reliure, comme vous le disiez. On va trouver ici des choses extraordinaires et pour le coup, là, pas chronologique, puisqu'on a aussi bien des œuvres du XVIIe ou du XVIIIe siècle que des reliure tout à fait contemporaine.
Oui, l'objectif, c'est d'avoir une salle sur les techniques, les reliures, comme vous l'avez dit, de manière la plus complète possible.
Alors, complète, évidemment, dans le cadre de cette exposition, on ne peut pas toucher à l'exhaustivité, puisque je vous rappelle que les œuvres qui sont présentées dans l'expo sont des œuvres qui ont été achetées par le biais du FRAB, du Fonds Régional d'Acquisition des Bibliothèques, qui est donc un fonds qui est constitué d'argent qui vient de l'État, de la DRAC et de la région. Et avec cet argent, les bibliothèques qui souhaitent faire des acquisitions pour compléter leur collection peuvent du coup solliciter cet apport financier. Donc, ce que vous comprenez bien par ce propos, c'est que les œuvres qui sont là sont en fait un panel de choses qui ont été achetées par ce biais et qui sont quand même représentatives, du coup, qui forment une sorte un peu d'élite ou de highlights, pour le dire en anglais, ou de bibliothèque idéale qui aurait été constituée au cours de ces 30 dernières années lors des acquisitions, par les acquisitions des bibliothèques en fonction de ce qu'ils peuvent acheter, ce qui arrive sur le marché de l'art. Il y a encore beaucoup de merveilles qui peuvent être en main privée. Donc, pour l'instant, c'est l'idée, c'est de vous présenter les choses les belles, très belles choses qui ont été achetées grâce à ce fonds.
Elles ont été acquises de quelle manière ces œuvres on a eu, je ne sais pas, des enchères, on a contacté des gens du privé pour pouvoir les avoir, les acquérir.
Alors oui, effectivement, vous avez raison, on fait appel, ça peut être tout à fait un collectionneur qui souhaite se défaire d'une œuvre et qui du coup la propose à l'achat. C'est aussi des ventes en salle des ventes, tout à fait, ou auprès d'antiquaires. L'essentiel étant de repérer, c'est ce que font les conservateurs par une veille constante, les œuvres qui les intéressent par rapport à une collection. Je pense par exemple au livre d'artistes lié à la mer, au Sable d'Olonne, qui constitue une collection. La médiathèque de la Bulle, la Mazée, qui va, elle, plutôt acquérir des planches de BD. Ici à Angers, il y a une collection qui est constituée autour de livres d'artistes liés à l'Apocalypse, ce qui est assez cohérent puisqu'ils sont tout à côté de la tapisserie. Donc vous voyez, en fonction des affinités, on cherche à repérer les œuvres qui pourraient venir compléter, enrichir les collections.
On va peut-être rentrer dans le vif du sujet, parler un petit peu de cette première salle vraiment dans laquelle on se situe. Alors du coup, tu avais une œuvre dont tu avais envie de me parler, une sorte de lookbook, c'est ça ?
Flipbook,
c'est ça.
On s'en approche. On a donc devant nous, dans une grande vitrine, un très grand ouvrage qui représente Isadora Duncan, qui est donc une danseuse tournant 19e, début 20e siècle, en train de danser. Et il faut imaginer, c'est une figure par page, une danseuse par page. Et lorsque la bibliothèque de Nantes, la conservatrice de la bibliothèque de Nantes l'a amenée, Il a fallu prendre la décision de l'ouvrir sur une page en particulier. Elle avait choisi cette page-ci. Sans doute, elle lui plaisait particulièrement. Il faut vous expliquer aussi, quand vous allez venir voir l'exposition, toutes les pages sont de couleurs différentes. Et donc, quand elle nous a un peu feuilleté l'ouvrage, montré l'ouvrage avant de le mettre en vitrine. Et on a constaté que Isadora Duncan était présente sur toutes les pages, dans des postures différentes, etc. Et j'ai dit à la conservatrice de Nantes, ah, ça ferait un super flipbook. Je pense que vous voyez ce que c'est qu'un flipbook, c'est-à-dire un petit livre qu'on feuillette en faisant tourner les pages à toute vitesse, en les feuilletant avec le doigt. Et là, ce serait génial parce qu'on verrait Isadora Duncan s'animer, comme on la voit aussi, il y a des reportages sur elle. Enfin, il faut que vous imaginiez, c'est en noir et blanc. Mais là, on aurait du coup une sorte de petite présentation absolument formidable. Avis aux étudiants des Beaux-Arts. On pourrait les mettre en rapport avec la bibliothèque de Nantes.
Et il a l'air particulier, ce livre, quand on le voit comme ça, c'est vrai, les pages sont assez épaisses, comme tu l'as dit, colorées, c'est un style particulier, est-ce que tu connais ?
Alors, c'est un plutôt de parler de livres, c'est vrai que nous, on a une idée quand on dit livre. Ici, on a beaucoup de recueils, fait, en réalité, donc c'est des planches, c'est comme vous savez, du papier à gros grains, enfin du papier raisin, je crois qu'on dit comme ça, de couleurs différentes, qui ont été rassemblées pour former ce recueil de dessins de Monsieur Grandjouan. Je cherche son prénom, j'ai oublié, mais on va le retrouver.
Jules Grandjouan. Voilà. Et Isadora Duncan,
Isadora Duncan.
Dans le Duncan.
Si on le prononce à l'anglaise.
À l'anglaise.
Oui, il me semble que c'est comme ça qu'on prononce. Voilà, mais ça fait partie de ces superbes danseuses là du début du XXe siècle. Il y a aussi Loé Fuller qui dansait avec d'énormes voiles et qui faisait comme des images de papillons. Enfin, tout ça, c'est absolument magnifique. Il faut que ça revienne à la mode parce que c'est super.
Le mot est dit. Bon, on va pas s'éterniser sur cette belle salle, c'est ça, très très remplie,
magnifique,
de toutes les époques.
On va aller voir aussi la salle des manuscrits,
la première
médiévale.
Enfin, la deuxième, du coup, première dans le sens chronologique de la chose.
Exactement. Et si vous en êtes d'accord, on va aller jeter un œil au petit feuillet du livre d'heures de Jean de Calabre.
Bien sûr.
Alors, on est face à un petit cadre qui contient trois petites enluminures qui est bien mis en exergue ici dans l'exposition, et il le mérite largement parce que ces petits feuillets, donc qui nous arrivent tout droit du XVe siècle, proviennent de ce qu'on appelle le livre d'heures, c'est-à-dire le livre qui contient les prières et qui dit à quel moment on doit les faire. Un livre d'heures appartenant à un laïc, contrairement à d'autres ouvrages qui appartiennent à des religieux. Et ce livre d'heures, donc, il appartenait à Jean de Calabre. Jean de Calabre, c'est le fils du roi René. Donc pour nous, c'est un personnage extrêmement important qui, comme son père, a vécu ici au château. Et l'histoire de ces trois petits feuillets, tout minuscules, je vous invite à venir les voir de vraiment très très près, ça doit faire 7 cm de haut, ou peut-être un petit peu plus, une dizaine de centimètres de haut. Ces trois feuillets, en fait, ont été identifiés comme appartenant au livre d'heures de Jean de Calabre de manière assez récente, je crois 2017 ou dans ces années-là, suite à une exposition qui avait lieu ici au château, donc vous ne pouvez pas vous souvenir, en 2009, ça s'appelait « Splendeur de l'enluminure ».
J'étais presque pas née.
Oui, c'est ce que j'allais dire. Je me doute qu'il y en a pas mal qui étaient vraiment très petits. Donc, sans doute pas en âge de venir voir cette superbe expo. Et donc, un conservateur de la Bibliothèque nationale a repéré ces petits feuillets qui étaient en vente chez un antiquaire et a dit que ça provient vraisemblablement de ce livre d'heures dans lequel, effectivement, il en manquait. Et donc, voilà, on en a retrouvé 3 sur les 12 manquants qui ont été donc acheté par la bibliothèque d'Angers, bibliothèque municipale d'Angers.
Tu m'as expliqué tout à l'heure pourquoi ils étaient détachés, ces feuillets. Est-ce que tu peux nous le réexpliquer, là, cette fois-ci, nos auditeurs?
Alors oui, je vous explique pourquoi ces petits feuillets se retrouvent tout seuls dans un cadre. Et d'ailleurs, c'était intéressant parce que quand ça a été décadré, il y avait à l'arrière de ces manuscrits un magazine, enfin des feuilles, je crois que c'était un journal genre automoto ou moto quelque chose, auto quelque chose, qui datait des années 30. Ce qui veut dire que l'encadrement actuel datait des années 30. Effectivement, les feuillets étaient détachés des manuscrits d'origine pour gagner plus d'argent en réalité, parce qu'en les vendant individuellement à l'unité, ça permettait de rassembler plus d'argent que simplement en vendant le manuscrit en un seul tenant en quelque sorte. Donc c'est une pratique pratique de dépeçage qui a eu cours à la fin du 19e siècle, peut-être encore au début du 20e siècle, et contre laquelle, évidemment, il faut lutter de toutes nos forces.
Et donc une œuvre qui date, enfin en tout cas des œuvres, puisque trois
alors
petits
là,
feuillets.
1450.
Date, c'est 1450. Ça, 1450. Et donc on va faire un bond en avant d'à peu près...
Une centaine d'années
non, ouais, non, une vingtaine d'années quasiment. Hein. Une vingtaine d'années pour arriver à la semi-renaissance. Je ne sais pas si ça se dit. On arrive au tout début de la Renaissance.
Et donc ici, on est dans la galerie qu'on a appelée le livre à la Renaissance. Parce qu'évidemment, vous n'êtes pas sans savoir que dans les années 1454-1456...
Invention de l'imprimerie.
Exactement. Gutenberg n'a plus aucun secret pour vous, Mathéo.
Mais non, c'est maintenant. Ça,
voilà. Et donc, on a parmi les ouvrages qui sont présentés ici dans cette galerie, alors on a un petit ouvrage d'Ambroise Paré, un personnage aussi extrêmement intéressant, hein, médecin d'Henri II, qui a fait faire à la science médicale d'énormes progrès. On a évidemment Défense et illustration de la langue française du Bellay, personnage aussi qu'on connaît bien en Anjou. Et puis ici, ce qu'on appelle un incunable, c'est-à-dire un ouvrage qui a été publié entre l'invention de l'imprimerie et les années 1500. Donc, qui vous dit bien, celui-ci date de 1477. On est, vous en étiez surpris, hein, très très tôt après l'invention de l'imprimerie, moins de 20 ans après l'invention de l'imprimerie, on imprime déjà en Anjou. Donc, c'est quand même assez extraordinaire. On est une terre d'innovation, en tout cas en termes d'imprimerie. Mais on est une terre d'innovation.
Exactement, exactement. Et qu'est-ce qui rend cette innovation, du coup, si particulière à quoi on voit que c'est l'une des premières œuvres imprimées?
Alors, on ne le voit pas, on le sait. Souvent, c'est marqué dedans. C'est comme pour certaines choses, vous voyez, quand même vos livres d'aujourd'hui, vous regardez, vous avez encore la date de publication qui est indiquée. Ça, on aime bien regarder quand est-ce que ça a été imprimé. Et ici, ce qui est quand même très intéressant, c'est que les premiers ouvrages qui sont imprimés, eh bien, on reprend les codes de l'enluminure, c'est-à-dire on ne sait pas trop comment faire autrement, et du coup on écrit en noir et on met les lettrines, hein, ce qu'on appelle les lettrines, c'était les choses qui étaient extrêmement ornées dans les premières lettres en fait de la phrase, ce qu'on trouvait extrêmement orné dans les manuscrits, eh bien on vient reprendre un peu les mêmes pratiques en quelque sorte, hein. Et même au début on imprime en noir et on continue à colorer en quelque sorte avec de la peinture, enfin on garde les réflexes de l'enluminure tout en gagnant en efficacité et en possibilité de diffuser davantage, évidemment, c'est tout l'intérêt de l'imprimerie, de pouvoir répandre les savoirs de manière très très efficace.
C'est une science très intéressante et on va continuer dedans, puisqu'on va rester donc, dans l'imprimerie et cette fois-ci avec un artiste très célèbre, si je peux le traiter d'artiste, un grand écrivain. Très très grand écrivain, exactement, Jules Verne. Et ça y est, on a monté quelques marches pour se retrouver ici dans la pièce de Jules Verne. Incroyable, une de tes pièces favorites, du coup, de ce que tu me disais.
Oui, j'adore Jules Verne, j'adore. Enfin, Jules Verne, c'est plutôt un truc de garçon, hein, j'avoue. Je n'ai pas forcément lu beaucoup quand j'étais jeune, mais c'est quand même, dans cette salle, des choses extraordinaires. Il y a, par exemple, le manuscrit de Paris au XXe siècle, qui n'a jamais été publié au XIXe siècle. Il avait été refusé par l'éditeur de Jules Verne, qui n'en a pas voulu, et il a fallu attendre 1974 pour que ce texte soit publié. Donc c'est pour vous montrer que c'est quand même quelque chose d'extrêmement rare. Et puis on a aussi, alors, qu'on aime bien tous les deux,
la grande
présentation des affiches.
C'est ça, parce qu'on n'a pas seulement, de la littérature ici, on n'a pas que de l'écrit, on a aussi, comme tu l'as dit, ces affiches, on a des petits sièges aussi.
Oui, des petits sièges de cinéma.
C'est ça, pour se mettre dans le thème.
Voilà.
Je vais te laisser nous expliquer un petit peu ces affiches.
Oui, on est face à un superbe écran, si on peut dire comme ça, d'un mur d'affiches dans toutes les langues qui traduisent bien l'extraordinaire retentissement des œuvres de Jules Verne qui ont été adaptées au théâtre, mais aussi au cinéma. Et donc, on va trouver Le Capitaine Nemo, 20 milieux sous les mers... Je vous ferai pas l'affront de vous le dire en anglais, Michel Strogoff, De la Terre à la Lune, Voyage au centre de la Terre, pour lesquels il y a eu des adaptations assez récentes, hein, sauf erreur. Le Tour du Monde, bien sûr, Le Tour du Monde en 80 jours. Donc on a pas mal de ballons ici qu'on peut voir en face de nous. Tribulation d'un Chinois en Chine aussi, avec Jean-Paul Belmondo. Alors, vous voyez, ça, c'est des choses qui nous parlent complètement. Et ce mur d'images vient bien évoquer l'énorme connaissance, enfin l'énorme retentissement des livres de Jules Verne qui sont adaptés au cinéma, au théâtre, qui font l'objet de produits dérivés. Hein, on a notamment aussi dans cette salle des vues stéréoscopiques, c'est-à-dire des choses qui, lorsqu'on les regarde, on en approche les yeux, on les voit, enfin, évidemment, aujourd'hui, à l'heure du 3D et des jeux vidéo extraordinaires que vous avez, où vous avez l'impression d'être dans la réalité, ça va vous faire rigoler, mais pour les vieux comme moi, c'était un truc extraordinaire qu'on avait quand on était petit, où on avait une sorte de petite machine à mettre devant les yeux, et on faisait passer des vues doubles, et ça donnait l'idée du relief, enfin, de la profondeur. Hein. Alors, c'est très anecdotique, hein, parce que ça n'a rien à voir avec ce que vous connaissez aujourd'hui. Mais donc, fin 19e siècle, on a déjà ce système de vue stéréoscopique qui permet de s'immerger dans le monde de Jules Verne. Tels que moi, j'ai connu, on les achetait dans le commerce, hein, bien sûr, mais celles de Jules Verne, pareil, hein, c'était des éléments qu'on pouvait acheter dans le commerce aussi, qui permettaient de garder souvenir d'une chose qui nous avait fait rêver, d'un voyage extraordinaire qu'on risquait pas de faire en vrai, hein, mais qu'on pouvait, par le biais de ces petites vues. Donc, vous avez dans l'expo un dispositif qui vous permet de venir à plusieurs hauteurs regarder ces vues stéréoscopiques et de voir si ça marche effectivement, cette illusion de profondeur.
Et donc on peut lire du Jules Verne et vivre du Jules Verne. C'est magnifique. Et on va changer de salle. Encore une fois, la cinquième sur six, on arrive bientôt à la fin. Et donc là, on parle d'avant-gardisme.
Oui, c'est ça, la littérature d'avant-garde, avec notamment les surréalistes, l'école de Rochefort, Julien Gracq. Donc là aussi, on a des choses assez extraordinaires, des ouvrages illustrés par Picasso et Braque, c'est des noms qui vont vous dire quelque chose. Et puis des choses très touchantes comme une lettre, on va s'en approcher.
Oui, bien sûr, une lettre d'une dame résistante, oui, de ce que ça, tu m'as dit. Je vais te laisser nous en dire un petit peu plus.
Qui écrit donc à Yuki Desnos et... Franchement, la forme de sa lettre est un petit peu surprenante. Alors, vous, évidemment, les jeunes, vous ne faites plus tellement de lettres.
Hein, faites des messages.
Faites des messages. Je ne sais pas si... Enfin, est-ce que... Mais peut-être c'est tellement joli, l'idée d'écrire une... de taper une lettre, puisque c'est tapé à la machine à écrire, de taper une lettre sur une sorte de napperon en papier, comme on devait en trouver sur les tables... à l'époque, on est en 1940, là. Donc, c'est vraiment magnifique. Hein. Il y a toute l'écriture, tout le côté écrit. Et puis, on voit ces rosaces décorées sorte de dentelle sur le côté donc, cet ouvrage. Oui, et je disais, oui, c'est une artiste qui faisait de la contre-propagande, en fait, puisqu'on est en 40, hein, on est pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, une résistante extraordinaire à son heure. Un personnage assez sympathique. Je vous invite à venir voir dans l'expo. Il y a des photos d'elle aussi assez chouettes. Voilà. Donc, il faut venir.
Il faut venir. Le message est passé et on passe dans l'après-guerre désormais. L'après-guerre et les temps d'aujourd'hui, si je puis dire. On a notamment du Étienne Davodeau. On a plein d'œuvres. Et je vais te laisser nous expliquer laquelle te plaît le plus.
Alors ici, de manière générale, on a des illustrateurs, parmi lesquels Benjamin Rabier. Alors, peut-être que le nom ne vous dira rien, mais quand vous verrez les œuvres, vous comprendrez. Hein, notamment, c'est lui qui a dessiné La Vache qui rit. Donc, La Vache qui rit, ça parle encore aujourd'hui à tout le monde. Mercier aussi, qui est un illustrateur angevin. On a des planches de BD. Vous allez voir notamment, effectivement, une planche de Rural de Davodeau, mais aussi une planche de Gus. On a des choses plus récentes également qui sont ce qu'on appelle des livres d'artistes faits avec, par exemple pour certaines, des reliures absolument extraordinaires, où là face à nous on a ce qu'on appelle un Leporello. Alors un petite page culturelle, Leporello c'est donc le nom du valet dans Don Giovanni, qui est amené à la demande de Don Giovanni à expliquer à une de ses maîtresses qu'il a de multiples conquêtes, et donc la liste en fait des conquêtes tient sur un menu, on pourrait dire un menu déroulant, enfin une sorte d'accordéon très très long. Et donc ce type de livre où vous avez ce système d'accordéon, hein, de pages qui se replient comme ça mais qui peuvent se développer, là ça fait à peu près 2 mètres de long. Donc ça s'appelle aussi un Leporello. Donc on a le lien entre la musique et la littérature par le biais de cet ouvrage-ci. À côté de nous, on a aussi un très très beau, une très très belle reliure. Je vous disais tout à l'heure que Angers, à la bibliothèque municipale d'Angers, on rassemblait les ouvrages, les livres d'artistes sur l'Apocalypse. Et donc là, vous en avez un exemple avec un ouvrage sur les quatre cavaliers de l'Apocalypse.
Et tout est d'époque actuelle, donc si vous avez bien suivi, on est bien passé du manuscrit à la BD. L'exposition est disponible jusqu'à quand ? Jusqu'en mai ?
Elle sera présentée jusqu'au 12 mai.
12, c'est ça, j'hésitais entre le 7 et le 12.
Non, 12 mai.
C'est 12 le 12 mai, donc vous avez encore du temps pour visiter. Merci Catherine.
De rien, avec grand plaisir.
C'est très gentil d'avoir pris ce temps.
Merci.